Aujourd'hui, changement de programme. Comme nous l'avons annoncé dans notre newsletter toujours, et dans la mesure du possible par les journaux, quand ça puisse faire, Claude Rioux n'a pas pu assurer sa conférence. Mais nous la retrouverons le 10 janvier. Et c'est Jean-Marie Classe, qui est membre de notre bureau, qui a bien voulu la remplacer et qui va donc présenter sa conférence qui était, elle, prévue le 10 janvier. Merci Jean-Marie. Tu vas donc évoquer pour nous une histoire de Belgique, pays, dis-tu, du surréalisme. Un titre qui ne laisse pas d'intriguer. Jean-Marie, nous t'écoutons.
Merci. Bon, les hasards du calendrier font que aujourd'hui, ma conférence qui a été déplacée se situe le 15 novembre. Le 15 novembre qui est la Saint-Léopold. Donc en Belgique, c'est la fête de la dynastie. C'est une fête qui a été célébrée pendant 150 ans par des tédéum chantés dans les grandes villes et spécialement à la capitale, en présence de la famille royale. Depuis l'an 2000 et la laïcisation de l'État, c'est devenu une cérémonie qui se déroule au Parlement, un hommage de la nation à la famille royale, et le tédéum est devenu une manifestation privée de la famille royale. Ce préambule étant fait, vous allez entendre raconter l'histoire de Belgique par un Belge, et vous constatez tout de suite, j'ai un accent belge. Mais je ne parle pas comme M. Van Globe de passage à Cagère, et je ne mets pas de frites dans le biberon des enfants. Cet accent bruxellois est aujourd'hui noyé dans une masse d'accents qui peuplent les capitales, et notamment s'agissant de la capitale belge, des fonctionnaires européens, plus toutes les autres nationalités qui s'y côtoient. Alors vous allez m'entendre parler belge, et je vais essayer d'ailleurs d'oublier un certain nombre de choses que j'ai apprises ici depuis 10 ans. Et je dois tout de suite vous dire qu'en Belgique, la capitale, ce n'est pas Bruxelles. C'est Bruxelles pour les francophones, c'est Brussels pour les flamands et Brussels à l'international. On m'a demandé pourquoi j'avais intitulé mon exposé « Une histoire de Belgique » et pas « L'histoire de Belgique ». D'abord parce que je ne suis pas historien, donc je ne peux pas prétendre à vous faire un exposé scientifique ni un exposé impartial. Je ne vais pas évoquer tous les aspects de la Belgique, et surtout pas l'aspect politique, car le passage récent à l'heure d'hiver ferait qu'on terminerait la nuit, et après, vous dormiriez très mal parce que vous n'auriez rien compris. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, nous ne comprenons pas tout non plus. L'important, c'est que ça tourne. Alors, j'ai intitulé l'exposé beaucoup plus sérieusement « La Belgique, est-ce bien un laboratoire de l'Europe ?» Et je le pense profondément. Car en effet, la Belgique fut créée dans un premier temps comme un royaume uni des Pays-Bas pour servir d'état tampon entre les habituels belligérants en Europe, que sont les Français, vous ici, les Allemands et accessoirement les Anglais et même parfois les Néerlandais. Donc tous ces gens-là venaient jouer à la guerre sur notre territoire. Donc au congrès de Vienne, qui dura longtemps, car il n'était pas que politique, il était aussi festif, on élabora un État qui devait servir de tampon et sur le territoire duquel on ne se battrait plus. Je ne suis pas tellement convaincu qu'on y soit arrivé. Mais enfin, éviter les guerres, c'était le projet de la création de la Belgique, n'est-ce pas aussi un des fondements de l'Union européenne auquel on n'arrive pas trop mal, et on arrive, je dirais modestement, mais je dirais quand même, grâce à des politiciens belges qui ont cultivé au paroxysme l'art du compromis. En effet, nous vivons en Belgique ensemble depuis 200 ans presque, sans nous aimer, ce qui n'est quand même pas mal. Alors, la Belgique, est-ce un pays ? Non, peut-être. Ça, c'est du belge. C'est du bruxellois spécialement, et non, peut-être, ça veut dire oui. Ah, faut s'y faire. Alors, quelques données factuelles, quelques chiffres. La déclaration d'indépendance de la Belgique est du 4 octobre 1830. Notre beau pays compte 30 688 km², ce qui nous place en 139e position mondiale, mais notre superficie varie chaque jour, car à marée basse, nous gagnons 160 km². C'est quand même pas mal. De temps en temps aussi, nous faisons des échanges de territoire avec nos voisins néerlandais, car aujourd'hui, on s'entend bien, après s'être tiré la bourre au XIXe siècle, et il y a des ajustements de frontières qui font que des terres passent d'un côté à l'autre. Alors, nous sommes 11 590 000. Et au moment où je vous le dis, ce n'est déjà plus exact. Ce qui nous situe en 79e position dans le monde, avec une densité quand même pas mal de 372 habitants au kilomètre carré. Notre produit intérieur brut est de grosso modo 550 milliards d'euros, ce qui nous met en 21e position. Nous avons perdu pas mal de place depuis le début du XXe siècle. Et alors, nous avons cette chère particularité d'avoir trois langues officielles, avec grosso modo 41% de Belges qui parlent le français et qui ont donc pour devise « l'union fait la force », plus ou moins 56% de néerlandophones qui diront donc « Eendracht maakt macht » et on l'oublie souvent, et c'est très ignoré en France, je m'en suis aperçu, plus ou moins 1,5% de Belges de langue allemande qui vous diront « Einigkeit macht stark ». Donc nous avons trois communautés linguistiques en Belgique, plus des complications bruxelloises, enfin je vous en passe des meilleures. La Belgique, un plat pays, oui sans doute. Comme vous êtes initié aux Belges maintenant, vous savez que oui sans doute, ça veut dire non. Voilà. Eh bien, la Belgique n'est pas plate. Le sommet de la Belgique, c'est le signal de Botrange, qui culminait en 694 mètres. Il est devenu le sommet de la Belgique en 1919, non pas qu'il ait grandi à cette date, mais il nous fut rendu au titre de dommage de guerre après la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que nous avons les Belges de langue allemande sur notre territoire. Les cantons de l'Est nous furent restitués à l'issue de la guerre. Donc, un génial inventeur, M. Baltia, eut l'idée d'ériger un monticule au sommet du signal de Botrange et de le surmonter d'un escalier, nous permettant d'arriver à la hauteur vertigineuse de 700 mètres. C'est notre K7 que, comme tout petit Belge, j'ai gravi seul, sans assistance et sans oxygène. Beaucoup plus sérieusement, nous avons une station météo qui est implantée à cet endroit relativement stratégique, qui nous permet de vérifier que nous avons environ 3 mois de gel par an et plus de 200 jours de pluie, ce qui permet de vérifier cette affirmation typiquement belge. Quand sait-on que c'est l'été en Belgique? C'est quand la pluie est chaude. Alors, la Belgique, comme la France, comme l'Europe occidentale d'une manière générale, elle existe depuis longtemps avant notre ère, même pas si ce n'était pas sous ce nom. Et les traces les plus anciennes, c'est la découverte à la fin du XIXe siècle de 29 squelettes d'iguanodons, dont on ne sait pas s'ils sont flamands ou francophones, on n'a jamais vérifié, qui remontent à moins 145 à moins 93 millions d'ans. L'homme de Néandertal fut découvert dans la grotte de Spie, dans la vallée de la Meuse, et quelque temps après, une découverte encore plus remarquable fut faite dans les grottes de Goyer, toujours dans le même secteur, où on releva à la fois des traces de Néandertal, c'est-à-dire moins 38, moins 40 000 avant notre ère, et des traces postérieures de sapiens qui s'y est installé vers moins 35 000, moins 30 000 avant notre ère. Un autre site très remarquable est celui du néolithique des dolmens de Wéris. Ce sont des dolmens et des menhirs qui s'étendent sur une ligne de 5 km et qui datent de plus ou moins 5000 à moins 6000 avant Jésus-Christ. L'installation définitive de la vie humaine en Belgique coïncide à l'âge du bronze avec l'arrivée des tribus celtes qui viennent de l'Est. On situe cela entre moins 1000 et moins 800 avant notre ère. Alors, belge, on se demande d'où vient l'expression, car vous allez voir qu'elle est très ancienne. On pense que c'est du celte, et ce n'est pas très gratifiant. Ça voudrait dire quelque part furieux, gonflé, exubérant. Et parfois, on essaye de trouver des explications un peu plus dignes. Belge viendrait du dieu celte Belenos, dieu soleil, je n'en sais rien. L'existence de la Belgique est attestée par un personnage célèbre, Jules César, qui dans son œuvre qui commente la guerre des Gaules, Commentarii de Bello Gallico, écrit « Horum omnium fortissimi sunt Belgae » De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Alors, je dois ajouter le reste du texte parce qu'il faut être honnête. Il explique pourquoi les Belges sont braves. Et là, c'est un peu moins glorieux. Donc, si je reprends le texte, mais je vais vous le lire en français, toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes et dans la nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, ici en bas, ils sont séparés des Belges par la Marne et la Seine, ici, et les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et parce que les marchands, alors rarement chez eux, ne portent point ce qui contribue à énerver leur courage. D'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, les Belges sont continuellement en guerre avec eux. Donc, ce n'est pas trop... Le territoire belge est peuplé de tribus celtes, dont on découvre les principales, les Trévires, les Aduatiques, les Éburons, les Ménapiens, qui est un surnom que, amicalement, les francophones continuent à donner aux Flamands, de Ménapios, hein mais ils nous en donnent aussi, Philippe, hein voilà. Donc, ces tribus ont affronté Jules César, et deux en particulier ont laissé une trace dans l'histoire. Ce sont les Nerviens, qui sont quelque part ici, du côté d'Anvers. Les Nerviens combattirent Jules César avec hargne, et leur chef, Boduonia, fut tué par les Romains à la bataille de la Sambre en moins 57 avant Jésus-Christ. La statue de Boduonia orne une des principales place de la ville d'Anvers. Un autre chef encore plus remarquable et remarqué était le chef des Éburons qui se trouvait ici, dont la capitale était Tongres, Tongres étant la plus vieille ville de Belgique, Tongrarium, Tongeren en flamand. Donc ce chef Ambiorix, qui lui aussi a sa statue sur la place principale de la ville, infligea à Jules César la pire des défaites des légions romaines, puisqu'en 54 avant Jésus-Christ, dans la plaine de Hesbé qui est plus ou moins là, la 14e légion romaine fut massacrée par les Belges. Jules César se vengea, évidemment, comme tous savent se venger les grands chefs de guerre, en massacrant les Éburons, mais ne put jamais capturer à son grand dame Ambiorix, qui est devenu un héros national. Et, soit dit par parenthèse aujourd'hui, le nationalisme éprouvant toujours le besoin d'avoir des héros,
Ambiorix et Bodionia sont des héros de la nation flamande. Et je ne pense pas qu'ils ont parlé flamand. Pendant les quatre premiers siècles de notre ère, c'est la Pax Romana, que nous connaissons tous, aussi bien en Belgique qu'en France. Nous sommes gérés par les Romains. Et à partir du 4e, 5e siècle jusqu'au 7e, les Germains progressent d'est en ouest. C'est fou comme ils ont l'habitude de se mettre en rang pour passer comme ça et descendre. Ils ont fait ça longtemps et ils renouvellent souvent. Donc, ils commencent à s'installer en Belgique et en Gaule, en France. Et ils vont s'approprier la Gaule, et spécialement la Gaule belge, parce que je vous parle de l'histoire de Belgique, avec une séparation qui n'en est pas vraiment une. Il y a les Francs ripuaires qui vont rester de culture romane et les Francs saliens qui seront plutôt de culture germanique. Et vous voyez que se dessine déjà à cette époque l'embryon de ce qui sera plus tard une séparation plus ou moins officielle de la Belgique. L'évolution dans le royaume des Francs va être très compliquée parce que, en vertu de la loi salique, à chaque génération, il y a partition entre les héritiers du territoire. Donc tout cela va fluctuer pendant plusieurs siècles jusqu'à arriver à une période où on va connaître une relative stabilité. Et à ce moment-là, nous arrivons à la fin de la dynastie mérovingienne. Nous avons trois grands ensembles, l'Austrasie, la Neustrie et l'Aquitaine. Le nord de la Neustrie, ici, correspond grosso modo à la partie flamande aujourd'hui de la Belgique. À la mort du dernier roi mérovingien, Thierry IV, c'est la dynastie des Pépinides qui va s'installer sur notre territoire avec la bienveillance du pape, Pépin le Bref étant sacré roi des Francs par le pape Étienne en l'an 754. Alors, les Pépinides, je dois vous le dire, ce sont des Belges. Pourquoi ? Parce que le premier des Pépinides, c'est Pépin de l'Andenne. L'Andenne, il est là. Son successeur, c'est Pépin de Herstal ou de Héristal, c'est là. Pépin de Herstal, qui aura comme fils Charles de Herstal. Ça devrait vous dire quelque chose, car après la bataille de Poitiers, il est devenu Charles Martel. Oui, donc, allez, soyons fiers, ils viennent chez nous. Voici la généalogie qui nous amène de Pépin l'Ancien, Pépin dit ou Pépin de l'Andenne, Pépin d'Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref, et nous arrivons à Charlemagne, les Carolingiens. Donc Pépin le Bref, il fait sacré roi en même temps que lui, ses deux fils, Charles et Carloman. Carloman décède très vite et Charlemagne reste le seul souverain au décès de son père. Il sera sacré empereur des Romains en 800, réalisant l'union qui est parfois si tactiquement intéressante pour les familles régnantes, du temporel et du spirituel. Il est à la fois chef de l'Église et chef de l'État. Charlemagne, le voilà, c'est sa statue à Liège, car en fait, la biographie qui a été écrite par le moine Éginaire, qui était son proche conseiller, la Vita Caroli, relate qu'il fut souvent en région liégeoise, avant d'être sacré empereur, dans les années 770 à 778, Il résidait fréquemment en région liégeoise et il fixa sa capitale à Aachen, Aix-la-Chapelle, qui est à 30 km de Liège. Un épisode particulier, peu connu en France, de l'histoire de Belgique, cette tapisserie représente la bataille des Éperons d'or. Cette bataille des Éperons d'or s'est déroulée le 11 juillet 1302 et c'est devenu, dans la geste nationaliste flamande, un événement majeur car les Flamands ont foutu une raclée aux francophones. Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est la fête de la communauté flamande. Alors, que se passe-t-il le 11 juillet 1302 ? Philippe le Bel vient guerroyer sur les terres flandriennes et il se trouve confronté, après avoir rasé Bruges, dans l'épisode qu'on appelle les Matines brugeoises, il a massacré tout le monde, il se retrouve en présence des milices flamandes, qui sont constituées de paysans, c'est pas une armée, qui les attendent dans une plaine boueuse, car je vous rappelle qu'il pleut 200 jours par an. Hein. Et Philippe le Bel, prudemment, envoie ses piétons, ses fantassins, mais il a à ses côtés l'impétueux Robert II d'Artois, qui décide de charger avec la cavalerie et qui s'embourbe. Il s'embourbe, ce qui permet aux milices flamandes de massacrer hommes, chevaux, etc., etc. À l'issue de la bataille, les Flamands ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser sur le champ de bataille, dont les éperons rutilants des chevaliers français qui seront accrochés dans la cathédrale de Courtrai, Courtrai en flamand, à la frontière française aujourd'hui. Cet épisode sert donc de marqueurs pour le nationalisme flamand, qui ne raconte pas que quelques jours plus tard, évidemment, l'armée française a réglé son compte aux milices. Un grand personnage de l'histoire de Belgique, c'est Charles Quint, très reconnaissable à son menton prognate des Habsbourg. Charles Quint est né à Gand le 24 juillet 1500, au Prinsenhof. Pour la petite histoire, il est né pendant un bal à la cour. Et j'ai trouvé ça dans une biographie espagnole de Jeanne de Castille, sa mère, dite Jeanne la Folle. Elle voulait l'appeler Juan. Mais Philippe le Beau, le papa, n'a pas voulu. Et il a dit, ce sera Charles, comme son grand-père, Charles le Téméraire. Donc, Charles Quint est né à Gand. Il a sa statue sur la place principale de la ville, Kaiser Karel, au Prinsenhof, et il sera très tôt orphelin de père. Son père décède en 1506. Il va être élevé à Malines, Mechelen en flamand, par sa tante, Marguerite d'Autriche, fille de Charles Téméraire, veuve elle-même. Et il va avoir une éducation prestigieuse, puisque outre deux précepteurs nobles qui sont les princes de Chimay et le seigneur de Chièvre, il reçoit l'éducation d'Érasme et du recteur de l'université de Louvain, un personnage qui sera illustrement connu mais pas longtemps, Jan Florizoon Bouillons, qui sera le pape Adrien VI. Vous vous rendez compte, il y a eu un pape belge qui n'a régné que 11 mois. Et c'est heureux car il est un peu proche de l'Inquisition. Voilà. Donc, Charles va passer ses jeunes années en Belgique avant de devenir, par les hasards des décès dans la famille, et ils furent nombreux. D'abord roi d'Espagne sous le nom de Carlos Ier, et puis empereur du Saint-Empire germanique, sous le nom de Kaiser, et Charles Quintus pour Rome et toute la chrétienté. Après cette jeunesse, il va partir pour l'Espagne, apprenant enfin l'espagnol, car ce n'est pas un espagnol du tout, il va guerroyer un peu partout dans le monde et viendra finir son règne en Belgique au début, fin des années 1540, au début des années 1550, prenant beaucoup d'intérêt à développer une série de lois, dont une loi qui m'a interpellé beaucoup, il voulait combattre l'alcoolisme. Il semblerait que les Belges buvaient. Mais ne boivent plus, hein, c'est fini. Non, c'est terminé. Beaucoup plus sérieusement, Charles Quint a fait évidemment énormément pour le rayonnement de l'Europe occidentale et particulièrement pour notre région. Alors, j'ai lu le titre un jour d'une émission qui passait à la télévision française, je n'ai pas vu l'émission. Cette émission s'intitulait « Les Belges, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Donc, je vous ai amené une photo de Charles Quint. Charles Quint est commémoré chaque année à la fin du mois de juin à Bruxelles dans un cortège fastueux, en costume, qui s'appelle l'homme gang, qui est un mot presque intraduisible, ça veut dire une procession qui tourne en rond, plus ou moins. Et cet homme gang eut lieu, le vrai, pas celui-là, le 2 juin 1549, quand il a fait sa joyeuse entrée avec son sinistre fils, le prince Philippe II, qui allait devenir roi des Pays-Bas et qui allait laisser des traces mémorables, mais pas dans le bon sens du terme. Voici un état des Pays-Bas à la fin du règne de Charles Quint. Vous voyez les Pays-Bas ici avec ce qui deviendra plus tard plus ou moins la frontière avec la partie belge, ceci qui a été reconquis par les Français, et un petit état indépendant pendant 900 ans, la principauté de Liège, dont je suis un digne ressortissant. Le XVIIe siècle se passe sans événements autres particuliers que de nombreuses guerres, notamment causées par les rois de France, Louis XIV ayant fait beaucoup de dégâts en Belgique, rasant Bruxelles et d'autres villes, pour aller se battre une fois avec les Néerlandais, une autre fois avec les Allemands. Le XVIIIe siècle va être un siècle assez calme, car nous passons par la maison des Habsbourg sous mandat autrichien. C'est le siècle où nous avons un couple qui est resté éminemment sympathique à tous les Belges, c'est Albert et Isabelle, qui règnent dans leur palais de Bruxelles et qui développent les arts, l'économie et toutes choses semblables qui vont faire que notre État au sein des Pays-Bas évolue favorablement, mais n'empêche pas que des velléités d'indépendance se manifestent et une expérience très particulière et très courte va se situer en 1790. Des révolutionnaires créent les États-Unis de Belgique. C'est une époque, évidemment, où les États-Unis, c'est très en vogue. Ces États-Unis de Belgique se constituent de 4 provinces, les Flandres, le Brabant, Namur et le Hainaut. L'expérience ne va pas durer longtemps. Pourquoi ? Parce que, ils se disputent entre eux pour savoir qui est le meilleur, comme toujours. Et ils négligent de chercher des soutiens internationaux, si bien que les Autrichiens qui avaient été chassés reviennent en force et reprennent le pouvoir. Mais cet épisode laissera quand même une trace, car l'empereur Joseph II décède juste après à Vienne et déclare sur son lit de mort « Les Belges m'ont tué ». Son frère Léopold, déjà un Léopold, sera notre dernier empereur autrichien. La Belgique devient française en 1795 par un décret du 9 Vendémiaire en 4, c'est-à-dire le 1er septembre 1795. Nous allons vivre une période relativement intéressante pour le développement politique, administratif de la Belgique, car nous allons être sous un régime départemental avec les bienfaits de l'administration napoléonienne quand elle ne contribue pas à nous amener des guerres. Donc la Wallonie et surtout Liège va beaucoup apprécier cet épisode car les révolutionnaires de 1790 des États-Unis de Belgique étaient allés puiser leur inspiration à Paris et étaient revenus avec leurs idées en Belgique qu'ils avaient dû remettre au placard et devenant français, ipso facto, ils sont heureux. La période française prend la fin, évidemment, quand Napoléon est défait, une fois de plus en Belgique, et encore une fois à cause de la pluie, puisque à Waterloo, ses boulets vont s'embourber, et il va perdre la guerre. Voici la reconstitution. Je vous le recommande si vous avez l'occasion d'y aller. Tous les 10 ans, il y a une grande reconstitution de la bataille de Waterloo, qui est très intéressante. Et tous les 5 ans, il y a une petite reconstitution qui l'est tout autant, mais enfin moins fastueuse. Le congrès de Vienne, qui s'étend sur une année en 1814 et en 1815, crée le fameux état tampon dont je vous parlais tout à l'heure, qui est destiné à enrayer une fois pour toutes les velléités expansionnistes de la France. C'est à cette occasion qu'on crée le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui est confié à un roi néerlandais, Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Alors, Guillaume Ier d'Orange-Nassau, il n'a évidemment pas laissé de bons souvenirs en Belgique, mais je crois quand même qu'il a fait tout pour ce qu'il fallait pour être détesté. Il était francophone, mais il veut imposer le seul néerlandais comme langue officielle à la Belgique. Il a évidemment l'opposition des francophones, mais beaucoup plus singulièrement, l'opposition des flamands, car la plupart des flamands ne sont pas instruits et ne parlent pas le néerlandais. Ils parlent un patois local qui est différent à Bruges, à Anvers, à Hasselt. Donc ça ne les arrange pas non plus, le néerlandais. Donc, premier sujet qui va fâcher les Belges avec Guillaume d'Orange. Deuxième sujet, il a décidé, dans sa grande mansuétude, de l'égalité de tous les cultes religieux. Mais il ne finance que le protestantisme. Donc ça ne se passe pas bien non plus. Donc finalement, il va fédérer tous les mécontentements contre lui, alors qu'il a eu des bienfaits, car il a tracé les canaux des grands fleuves belges, la Meuse et l'Escaut, qui permettent qu'ils soient navigables pour l'industrialisation, et qu'il a fait beaucoup pour l'essor industriel. N'empêche qu'on n'en veut plus, et alors on arrive à l'acte constitutif de la Belgique. Nous sommes en 1830, et tout va démarrer sur la base d'un opéra. La Muette de Portici, qui fut un grand succès à Paris au début du XIXe siècle, qui est aujourd'hui tombé en désuétude. La Muette de Portici, c'est un opéra en 5 actes d'un monsieur Daniel François Esprit Aubé, que je ne connais pas du tout, Aubert, sur un livret d'Eugénie, d'Eugène Scribe et de Germain Delavigne. Il est créé à Paris en 1821, à l'Opéra de Paris, salle Le Pelletier, où il a connu un grand succès. La Muette de Portici, et c'est là que ça devient intéressant, exalte le sentiment de la patrie et celui de la liberté au travers d'une fresque qui met en scène le peuple napolitain se révoltant contre l'occupant espagnol. Portici étant le nom d'un port de pêche des environs de Naples. Alors, le rôle de la Muette de Portici, c'est quand même extraordinaire, une muette dans un opéra, est joué par un mime ou une danseuse. Le 25 août 1830, la muette de Portici est programmée à Bruxelles. La police secrète de Guillaume d'Orange lui dit « Attention, ça grouille, ça bruisse, les Belges préparent quelque chose. » Guillaume Ier ne les écoute pas. Il met une grande partie de sa garnison en congé, c'est l'été, donc la pluie est chaude, et il rentre aux Pays-Bas. La représentation se déroule jusqu'au moment critique du chant qui est pratiquement resté le seul morceau de l'œuvre qu'on entend aujourd'hui. Je ne vais pas vous le chanter car je ne suis pas ténor. Or, c'est un air pour ténor. Mais les paroles sont évidemment galvanisantes pour des gens qui veulent se révolter. Mieux vaut mourir que rester misérable. Pour un esclave est-il quelque danger ? Tombe le joug qui nous accable et sous nos coups périsse l'étranger. Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays tu dois la vie, il me devra la liberté. À l'issue de ce chant, le public se répand dans le parc de Bruxelles et dans les rues, poursuit la milice hollandaise, qui prend ses jambes à son cou et se retire au-delà d'Anvers. La nouvelle se répand dans le pays, les révolutionnaires de tous bords montent à Bruxelles, et particulièrement un bataillon de Liégeois qui avait participé aux événements français de la fin du XIXe siècle. Les Hollandais se reprennent, les Néerlandais se reprennent, reforment les rangs pour la bataille, mais entre-temps, les Belges qui ont participé aux guerres napoléoniennes sont allés rechercher le général Duvivier, chevalier d'Empire, qui organise des troupes belges et par deux fois repousse les troupes hollandaises au-delà d'Anvers, Anvers étant un point névralgique car économiquement super important pour la Belgique. Pas encore pour la drogue, ça viendra plus tard. Donc le 29 septembre, les Néerlandais se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. Alors, ils décident de proclamer la séparation administrative de la Belgique du Royaume des Pays-Bas. Mais c'est trop tard. Les Belges n'en veulent plus. Et le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire se constitue et déclare l'indépendance de la Belgique, qui est aussitôt reconnue par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, le 4 novembre 1830. Un congrès national est réuni. Il opte pour une forme d'État monarchique appuyée sur un régime bicaméral, Chambre des députés, Sénat, avec séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Un régent est élu, c'est un Liégeois. Le Liégeois Surlet de Choquier, connu pour sa diplomatie d'hippopotame, car on le surnommait Surlet de Choquier le choquant. Et c'est Surlet de Choquier qui va se lancer dans la quête d'un roi, puisque nous avons opté pour le régime monarchique. Là commence la vraie histoire de Belgique institutionnelle, celle qui est dans tous les livres. C'est l'époque des chasseurs de têtes, mais des têtes couronnées. Dans un premier temps, notre assemblée constituante se tourne vers Louis d'Orléans, duc de Nemours, fils de Louis-Philippe Ier, qui refuse le 3 février 1831. Le Congrès national belge cherche un prince de statut international, propre à garantir la pérennité de la Belgique, et porte ses choix sur un prince devenu anglais, car il avait marié Charlotte de Galles, fille du roi Georges III. C'est le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha. Alors, le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, je peux vous dire que ce serait bien un héros tolstoïen, tant sa vie fut riche en péripéties. Donc, les Saxe-Cobourg-Gotha sont des petits princes allemands. Ce n'est pas un grand territoire, Mais ils ont une qualité importante dans la noblesse, ce sont des marieurs nés. Donc les parents de Léopold, qui est le fils cadet d'une fratrie de quatre, donc de cinq, pardon, va voir son destin garanti par le mariage de ses sœurs. En effet, la princesse de Saxe-Cobourg-Gotha est très proche de la grande Catherine II de Russie, qui veut marier Constantin. Et Madame de Saxe-Cobourg-Gotha se rend à Moscou avec ses trois filles, et elle dit à Catherine II, choisis. Constantin n'en veut aucune. Si bien que la grande Catherine va devoir se fâcher, et elle dit, ben, tu épouseras la plus jeune, Julie, qui est donc mariée au petit-fils de Catherine II, tandis que l'autre fille, tant qu'on est à Moscou, autant de faire toutes ses courses, Antoinette, épouse le futur tsar Paul Ier. Alors là, c'est le jackpot. Les Saxe-Cobourg-Gotha sont garantis de bien vivre. À tel point que le petit Léopold, à 5 ans, est nommé colonel du régiment Ismaïlova de l'armée russe. Et à 12 ans, il est général de la garde impériale. Donc, les promotions sont fantastiques. Nous sommes dans les années napoléoniennes et les terres des Saxe-Cobourg-Gotha sont saisies par Napoléon pour ne pas avoir été suffisamment obéissantes aux ordres de l'empereur, si bien que Léopold et son grand frère se rendent à Paris pour rencontrer Napoléon et obtenir la clémence pour les Saxe-Cobourg-Gotha. Alors là, le voyage à Paris de Léopold l'a beaucoup marqué et ça lui servira beaucoup pour la suite de sa vie. En effet, il se rend compte qu'à Paris, il n'est plus un prince respecté, il n'est qu'un courtisan qui attend son tour pour être reçu vaguement par Napoléon. Napoléon, qui ne va pas donner suite à sa demande de restitution, du moins tout de suite, des territoires, mais va noter dans ses mémoires que c'est probablement Léopold, le plus beau prince européen qu'il ait rencontré. Cette constatation est confirmée par Joséphine de Beauharnais, qui, franchement, a trouvé que Léopold était très bien, la petite Hortense aussi, et quand Léopold et son frère sont rentrés en Allemagne, elle va obtenir de Napoléon qu'ils restituent leurs terres aux Saxe-Cobourg-Gotha. Donc, dans cette cavalcade de mariages heureux et prospères, à un moment donné, notre Léopold part en Angleterre et il épouse la fille du roi George III. Il a une voix royale, c'est le cas de le dire. Elle est l'héritière du trône, il sera donc prince consort. Tout se présente bien. Malheureusement, en 1819, ils ont un premier et unique enfant qui va mourir après l'accouchement, de même que sa maman dans les jours qui suivent. Donc, le rêve de prince consort s'évanouit. Léopold devra trouver une autre voie. Mais vous pouvez faire confiance aux Saxe-Cobourg-Gotha, ils sont débrouillards. Donc, Léopold va d'ailleurs faire quelque chose de très intelligent, puisqu'il ne sera jamais roi d'Angleterre. Il va marier sa sœur Victoire au duc de Kent. Et sa sœur Victoire et le duc de Kent auront une fille, née en 1819, qui s'appelle Victoria. Victoria, qui ne devait jamais devenir reine d'Angleterre, mais son frère aîné décède. Donc, Léopold va élever sa nièce, ce qui en dit long sur l'entregent qu'il va avoir auprès des cours européennes. Donc finalement, la Belgique, après avoir essuyé le refus de Louis d'Orléans, enregistre, après d'âpres négociations, l'acceptation de Léopold pour devenir le premier roi des Belges. Et il est installé le 21 juillet 1831, qui va devenir le jour de la fête nationale. Alors, les premières années du roi sont à la fois chaotiques et glorieuses, car il va négocier le statut de la Belgique avec les grands d'Europe. Il les connaît tous. Il est proche de tous, soit familialement, soit par les contacts qu'il a eus dans le cadre de toutes ses activités. Il va aussi être le chef de notre armée. Il va continuer à devoir guerroyer jusqu'en 1839 avec les Néerlandais qui veulent tout le temps revenir. Et maintenant, ils traversent comme ils veulent, les Néerlandais, avec une caravane et chut, ils passent. Hein. Donc, à la tête de l'armée belge, aidé par les Français, il y a toujours Duvivier qui est là, il va repousser deux fois les Pays-Bas et il va aussi faire face à une révolte en 1848. Donc 1848, si ma mémoire est bonne, c'est la fin du régime monarchique en France. Ça a des conséquences au-delà de la frontière. Il y a une coterie qui se forme, une espèce de parti ouvrier avant la lettre, qui forme une milice pour envahir la Belgique et qui est encouragée par un immigré allemand installé à Bruxelles et qui s'appelle Karl Marx. Ce qui lui vaudra de se faire chasser une fois de plus, il ira raconter ses salades en Angleterre. Léopold est aussi un grand ami des Rothschild. Ça va beaucoup l'aider à développer l'économie belge. Il y a toutefois déjà un bémol dans ce règne, car il est unanimement accepté, mais le français est la seule langue officielle du pays à cette époque, dans la première moitié du XIXe siècle, et pour cause, puisque la langue flamande n'est pas unifiée. Donc Léopold Ier est incontestablement une grande personnalité du XIXe siècle, non pas à l'échelon belge, mais à l'échelon européen, et son art consommé des mariages se poursuivra pendant son règne, car quand il est désigné roi, il souffre d'une tare importante en Belgique, il est protestant. Et il n'a pas l'intention de se convertir. Alors, qu'est-ce qu'il va le faire très diplomatiquement? Il va épouser la fille de Louis-Philippe Ier, princesse française et catholique, ce qui va d'une part renforcer les liens avec la France, alors qu'il avait déjà des liens importants avec l'Angleterre, et va le faire accepter puisqu'il a épousé une princesse catholique. Et ce mariage sera relativement prolifique, car Léopold va marier sa fille Marie-Henriette avec un autre Habsbourg, Charlotte avec Maximilien qui deviendra empereur du Mexique, mais pas très longtemps, si bien que la Belgique étant par la famille de Saxe-Cobourg-Gotha son pouvoir sur le Grand-Duché de Luxembourg, prétend à l'Italie et même quelque temps à la France bonapartiste, qui ne reprendra plus jamais de roi. Alors, pourquoi il n'est pas passé celui-là? Le voilà. Voici les armoiries de la Belgique, qui sont significatives de l'évolution du pays en un siècle. Vous voyez le premier blason, ici, il porte uniquement en français. L'union fait la force, car à cette époque, le français est la seule langue officielle. Il faudra plus d'un siècle pour qu'on trouve un blason avec la traduction en néerlandais et la traduction en allemand. Les provinces vont disparaître, car elles ne sont plus que des entités administratives, ce sont les gouvernements régionaux, et petite gâterie pour la famille royale, le roi a souhaité que les armoiries de la famille de Saxe-Cobourg-Gotha figurent sur le blason. Léopold Ier, notre premier roi, s'éteint en 1865 et il fait l'objet d'un éloge funèbre très particulier que je vais vous lire. Et après, je vous poserai une question. Le grand juge de paix de l'Europe a donc dévissé son billard. Ce roi n'était pas un fouillard comme notre Louis-Philippe. Il pensait, l'obstiné vieillard, qu'il n'était jamais assez tard pour casser son ignoble pipe. Léopold voulait sur la mort gagner sa première victoire. Il n'a pas été le plus fort. Mais dans l'impartiale histoire, sa résistance méritoire lui vaudra ce nom fulgurant, le cadavre récalcitrant. Qui est l'auteur de ce magnifique poème ? Charles Baudelaire. Qui à l'époque est réfugié à Bruxelles. Il détestait la Belgique. Il était réfugié à Bruxelles et détestait la Belgique. Au décès de Léopold Ier, l'État belge est stabilisé. Son fils, Léopold II, monte sur le trône en 1865. Alors Léopold II, ce sera un roi bâtisseur. Il va développer le chemin de fer, les routes. Il va réaliser une opération particulièrement gagnante. Il engage deux explorateurs, Stanley et Livingstone, et il leur dit, voilà, vous me trouvez un territoire en Afrique qui regorge de ressources, et je l'achète. Et à titre personnel, Léopold II achète le Congo. Ça va avoir une influence particulière sur le développement de la Belgique, parce que Léopold II, à la fin de sa vie, on dit qu'il a donné le Congo, ce n'est pas vrai, il a vendu le Congo à l'État belge, moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Mais enfin, l'État belge a fait une excellente affaire, car à l'aube du XXe siècle, nous sommes dans les 5 premières puissances mondiales. Donc aujourd'hui, on serait au G7. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, Léopold est un grand roi. Il a une particularité, comme son père, que je n'ai pas cité parce que c'est un peu l'envers de l'histoire. C'est un grand amoureux. Si bien qu'à l'aube du XXe siècle, les chroniqueurs qui sont un peu canailles ne les appellent plus les Saxe-Cobourg-Gotha, mais les Sex-Cobourg-Gotha. Donc, Léopold II aura de nombreuses maîtresses, dont une meneuse de revue parisienne qu'il fera baronne et pour laquelle il fera construire une magnifique propriété à Villefranche-sur-Mer, à côté de la sienne, oui. Qui a été revendu aujourd'hui à un grand groupe, je ne sais plus lequel. Léopold II va avoir aussi, quelque part, une vision prévonitoire. Il va développer une armée de métiers et développer le service militaire. Ce n'est pas anodin avec les événements qui se profilent. Il y a aussi une particularité qu'il est le seul roi à avoir rencontré. Il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un anarchiste à Louvain, le 15 novembre 1902. Épisode pas toujours connu. Quand Léopold II décède en 1909, il y a un grand problème qui se pose. Il a eu des enfants, mais pas de garçons. Or, la dévolution du trône, c'est l'application de la loi salique, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Donc il n'y a pas de fille, c'est son... il n'y a pas de garçon, et c'est son neveu qui va monter sur le trône. Neveu qui n'était pas non plus destiné à monter sur le trône, car il avait un frère aîné qui est décédé. Donc Albert Ier monte sur le trône en 1909, et ça va être un roi qui va faire l'unanimité. Ça va être un grand roi qui est toujours représenté avec son uniforme de campagne et son épouse, la princesse Élisabeth de Bavière, est souvent représentée à l'époque en costume d'infirmière, car quand l'Allemagne décide une fois de plus de partir en excursion via la Belgique, le Kaiser demande à la Belgique, qui est neutre, elle a affiché sa neutralité depuis 1830, il demande à la Belgique, laissez-moi passer. Et le roi dit dans les trois langues nationales, non, tu ne passeras pas. L'Allemagne déclare la guerre à la Belgique et le gouvernement belge dit, on va partir à Londres, sire, venez avec nous. Non, je reste avec mon armée. Il se retire dans la plaine de l'Isère, le long de la mer du Nord, fait ouvrir les écluses, et l'armée belge va résister au siège pendant 4 ans dans la vallée de l'Isère. Entre-temps, les armées allemandes, les armées du Kaiser ont été bloquées pour la prise des forts qui défendent la vallée de la Meuse, ce qui vaudra à la ville de Liège de recevoir de Raymond Poincaré la Légion d'honneur, car en retardant l'avancée allemande, ça va permettre à l'armée française de s'organiser. C'est donc un grand roi qui fait l'unanimité, c'est le roi chevalier, tel qu'on l'appelle. Malheureusement, c'est un grand sportif, il y a d'ailleurs dans les Alpes le refuge Albert Ier du club alpin belge, et en 1934, il se tue lors d'une escalade de rochers à Marche-les-Dames. Grand drame pour la Belgique. Entre-temps, à la fin de la guerre, le mouvement nationaliste flamand s'est développé, car pendant la guerre, les Flamands ont fortement critiqué le fait qu'ils étaient commandés par des officiers francophones qu'ils ne comprenaient pas et qui les envoyaient à la boucherie. Donc, le mouvement nationaliste flamand s'est développé. Ils ont trouvé un consensus sur une langue unique, car on ne peut pas parler soit l'anversois, soit le flandrien, soit le limbourgeois. Ils ont voulu à un moment donné créer une langue, ce qui était une tâche pratiquement impossible, et ils se rendent finalement aux arguments d'évidence. Ils adoptent la langue néerlandaise, l'Algemeen Bestaaf Nederlands, comme langue officielle des Flamands. Un monument est érigé à Dixmude, près de l'Isère, qui commémore la fin de la guerre et les héros décédés pour la défense du pays. Ce monument sera bientôt détourné par les nationalistes flamands, qui en font un hymne à la Flandre, et dans les années 60, 70, 80, ça donnera lieu à des pèlerinages qui n'en sont plus, mais des manifestations extrêmement virulentes contre l'État unitaire belge. Alors, vous avez à l'avant le monument érigé pour la guerre, Pax, et à l'arrière, la tour, l'Eiser Tour, sur laquelle vous avez les lettres A, V, V, K, ce qui signifie « Alles voor Vlaanderen », tout pour la Flandre, et « Vlaanderen voor Christus », la Flandre pour le Christ. Léopold III succède à Albert Ier. Alors, Léopold III, après trois premiers rois dont on doit dire du bien, Léopold III, c'est un roi catastrophe. C'est un roi catastrophe à mains égards. Il n'est pas du tout prêt à régner et il va le démontrer à de multiples reprises. C'est aussi un roi catastrophe, malheureusement, dans sa vie privée, car il a épousé une princesse suédoise qui va mourir dans un accident de voiture causé par son mari. Ils ont une énorme voiture de sport et le roi dit à son chauffeur « Laisse-moi conduire sur les routes de Suisse » et il fait une embardée, il va au fossé, la reine est tuée. Donc ça va être une grande catastrophe en Belgique, et les Belges vont commencer à le regarder quand même d'une drôle de manière en se disant « il n'est peut-être pas très sérieux ». Se profile la Seconde Guerre mondiale, et voilà, nos amis d'Outre-Rhin qui se remettent en rang, on repart en excursion. Alors, ils passent par la même route, mais ils ne rencontrent plus la même résistance, car en fait les forts belges qui avaient résisté en 14, il avait fallu les moderniser. Et on avait eu l'excellente idée de prendre des ingénieurs allemands pour moderniser. Ils avaient gardé les plans. Donc l'armée belge est assez vite balayée. Et le gouvernement, habitué, dit au roi, « Allez, on va en Angleterre. » Et le roi dit « Non, je reste avec mon peuple, je vais résister, comme Albert Ier. » Et c'est quelque chose qui va vous parler, à vous les Français, il va faire plus que rester en Belgique, il va vouloir aller rencontrer Hitler pour négocier une paix séparée. Hitler va le recevoir comme un prince d'opérette, ne va pas lui répondre. Léopold va rentrer à Bruxelles, il sera fait prisonnier et emmené en exil pendant toute la guerre. La Belgique va avoir un grand ressentiment à l'égard de ce roi, et spécialement les politiques, car constitutionnellement, il ne pouvait pas refuser déjà, c'était le gouvernement qui décidait, mais en plus, il a fait un extrêmement mauvais choix en restant et en se faisant emmener en exil. À la fin de la guerre, en 1945, le roi veut rentrer. Mais le gouvernement ne veut pas trop. On ne lui a pas pardonné. Et la population n'est pas unanime à vouloir son retour. Donc commencent des tractations en vue de « je reviens, je ne reviens pas ». On désigne son frère Charles comme prince régent et on finit par organiser un vote pour ou contre le retour du roi. Et c'est là que va survenir ce qu'on appelle la question royale. C'est qu'en fait, ce référendum va donner 57% de oui. Mais avec une dichotomie importante entre les Flamands qui sont franchement pour et les Wallons qui sont franchement contre. Donc ça va donner lieu à des manifestations de plus en plus virulente, et le point le plus dramatique va survenir en région liégeoise en 1950, où la gendarmerie tire sur la foule, et il y a 3 morts. Donc là, c'est la fin. Léopold III ne reviendra pas, d'autant plus qu'on lui a trouvé un reproche en plus. Il s'est remarié avec la fille du gouverneur de Flandre, qui n'était pas entièrement blanc pour ces années de Seconde Guerre mondiale. Il a fait encore plus, il s'est marié à l'église avant de se marier civilement, ce qui est proscrit par la loi. Donc, c'est vraiment un roi catastrophe, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour l'homme, qui vivra de longues années heureuses à faire des voyages à travers le monde et à faire des magnifiques photos, mais ce n'était pas un bon roi. Donc, de manière abrupte, en 1950, c'est son fils aîné, Baudouin, qui deviendra Baudouin Ier, qui monte sur le trône. Alors, Baudouin Ier, il va subir le contre-coup de tout ce qui vient de se passer. Il va vraiment devenir un roi constitutionnel, n'ayant aucun pouvoir. Il signe les lois, il est notre représentant, mais c'est tout. Aucun acte du roi ne peut être posé sans être couvert par un ministre. Baudouin va s'en accommoder. C'est un homme calme, profondément religieux, qui va être un roi, allez, on va dire, relativement transparent, si ce n'est en une circonstance que je vais vous relater brièvement, et qui va vivre des moments difficiles parce que le nationalisme flamand est exacerbé. C'est notamment l'époque où le roi se rend à Anvers et il est accueilli par les cris « Belgique barst !» que la Belgique crève. C'est quand même assez significatif. Donc c'est pendant son règne que nous allons perdre le Congo, qui devient indépendant en 1960, donc nous perdons quand même des rentrées, pas toutes, mais on en perd beaucoup, et il va connaître la régionalisation de la Belgique. Sur un plan personnel, on va mettre beaucoup de temps à lui trouver une épouse, car c'est un célibataire endurci, et finalement, il épouse au début des années 60 Donna Fabiola Yaragon, une noble espagnole, avec laquelle ils vont faire un couple fusionnel, mais qui n'aura pas d'enfant. Et ça va être une donnée importante qui va amener à modifier la Constitution, car n'ayant pas d'enfant, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, c'est d'abord le frère du roi, Albert, mais il est assez âgé et il n'a pas mené une vie de moine, donc on se dit, il ne conviendra peut-être pas trop. Et ses fils sont un peu tendres. Par contre, il a une fille, Astrid, qui pourrait convenir. Donc on va modifier la Constitution pour permettre qu'éventuellement une femme monte sur le trône. Alors, ce règne est donc celui de la partition de la Belgique. Elle devient fédérale. Et le roi va laisser une trace particulière, je vous disais tout à l'heure. Donc il n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas s'exprimer personnellement. Pourtant, sa foi chrétienne va l'amener à refuser la loi libéralisant l'avortement en Belgique. Alors ça pose un problème politique important, puisque le roi est là pour sanctionner la loi, pour lui donner vigueur. Et on va encore trouver là toute l'habileté des politiciens belges. Le roi va se déclarer dans l'impossibilité de régner pendant 24 heures. Et c'est un ministre qui va signer la loi à sa place. Le roi Baudouin décède brusquement en juillet 1993. Et, comme je vous le dis, la Belgique est devenue fédérale. Vous avez donc en plus ou moins bleu la Wallonie, en jaune la Flandre, au milieu la zone hermaphrodite de Bruxelles, et à droite la petite communauté, la Deutsche Gemeinschaft. Qui va succéder à Baudouin? Eh bien, de manière assez surprenante, c'est son frère qui va dire, moi, je monte sur le trône. Albert II, moi, le prince qui a festoyé, qui n'a pas toujours été fidèle à son épouse, qui a fait beaucoup de choses, eh bien, il monte sur le trône et il va être extraordinaire comme roi, car en fait, sa bonhomie qui transpire sur cette photo, son empathie en font un roi de consensus qui va toujours réussir à sauvegarder les intérêts des uns et des autres et l'unité nationale. C'est le roi, et ça vous adorez, vous ici en France, vous me l'avez dit chaque fois, des 540 jours sans gouvernement. En fait, c'est faux. Il n'y avait pas, c'était pas 540 jours sans gouvernement. Il y avait un gouvernement fédéral en affaires courantes, donc ils étaient toujours ministres. Ces gens-là ne vont pas pointer au chômage, hein. Il y avait un exécutif flamand, un exécutif wallon, un exécutif de la communauté française et un exécutif de la communauté germanophone. Donc tout ça fonctionnait. Et le roi, avec sa bonhomie, a réussi à tenir tout cela d'une main calme. Il va régner de 1993 à 2013. Alors en 2013, il se retire. Il a des problèmes de santé. Il a surtout aussi un énorme problème qui se profile. C'est qu'il a une fille naturelle qui veut se faire reconnaître. Donc ça, ce serait très ennuyeux s'il est sur le trône au moment où tout cela éclate. D'autant plus qu'elle veut faire un procès en reconnaissance de paternité, faire des prélèvements ADN sur le roi, etc., etc. Donc, il est temps d'aller se mettre au vert. Donc notre brave Albert, et c'est un brave, abdique en faveur de son fils, Philippe, dont on avait pensé que Il ne serait jamais capable de monter sur le trône. Eh bien, il en est capable. Surtout qu'entre-temps, il a épousé une maîtresse-femme qui est la reine Mathilde. Et notre roi préside aux destinées de la Belgique depuis 2013. Maintenant, il vient de fêter ses 10 ans de règne sur un pays où les compétences sont aujourd'hui complètement régionalisées ou communautarisées. Alors, je vous avais dit, je ne vais pas vous parler de l'aspect politique, je ne le ferai pas. En gros, les matières qui touchent à la personne sont gérées par les régions et les communautés, tandis que le régalien, la justice, la défense nationale, le budget sont en principe gérés par l'État. Mais c'est fort compliqué parce que tous les jours il y a des entorses. Bruxelles s'est trouvé cette année un ministre des Affaires étrangères, alors que ce n'est pas une compétence, qui a trouvé intéressant d'inviter à un congrès des maires du monde le maire de Téhéran en pleine révolte là-bas. Il est passé outre le fait que les affaires étrangères lui disaient « Non, il ne faut pas qu'il vienne, je veux qu'on lui délivre un visa. » Enfin, soit ça a foutu un bordel invraisemblable. Donc, ça ne s'est pas trop bien passé. Donc, aujourd'hui, nous avons depuis 10 ans un roi, Philippe Ier, une Belgique qui ne sait pas trop vers où elle va, je n'en sais rien non plus, qui devait fêter ses 200 ans en 2030. Alors, je vous ai dit, pays du surréalisme, je vais terminer sur une peinture de René Magritte, surréaliste par excellence, qui s'intitule « La durée poignardée ». Alors, ce tableau de 1938 est exposé à Chicago. Et René Magritte, pour cette œuvre comme toutes les autres, s'est toujours refusé à des interprétations de son œuvre. Il disait par exemple pour celle-ci, c'est l'exploration du concept de l'énigme. Voilà. Moi, je dirais que c'est la Belgique qui sort d'un tunnel et on ne sait pas trop où elle va aller. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, ces applaudissements nourris, n'est-ce pas, prouvent que vous avez mené votre conférence de façon à ce que personne ne dorme, je n'ai vu personne dormir. Tout le monde était attentif, content, heureux, et merci de d'avoir mené cette conférence avec votre enthousiasme que nous connaissons, nous, au sein du bureau, et puis d'avoir choisi de bien vouloir remplacer. Mais nous n'avons pas à nous plaindre, soyez sûrs.
Moi non plus. Très heureux d'avoir voilà. pu présenter mon pays.
Voilà, on est voilà. très heureux que vous ayez pu présenter cette conférence. Est-ce que je prendrai 2 questions, s'il y en a, si cette histoire de la Belgique a suscité chez vous quelques questions? Ah.
Alors, c'est vraiment un point de détail, mais à qui Léopold II a-t-il acheté le Congo?
Là, je n'en sais rien. Philippe, tu le sais, toi? Tu le sais, non?
Il y avait des interlocuteurs sur place et on négociait en fonction des petits rois ou des petits chefs de tribu, etc.
Voilà.
Oui, oui, si, il y avait une mise en forme quand même. Si.
Il y en a une autre à laquelle il ne pourra pas répondre.
Oui, je voudrais rebondir sur la dernière photographie et également sur la carte. Il me semble, tu me diras si j'ai tort, que le mouvement surréaliste belge a surtout concerné la Wallonie, les francophones, du tout les flamands.
Non.
Donc ça, pour moi, ça a toujours été une énigme. Mais en parlant des Flamands, justement, je voudrais savoir où en est le mouvement nationaliste flamand qui, à un moment donné, voulait qu'il y ait implosion de la Belgique et donc création d'un État indépendant flamand.
Mais le mouvement nationaliste flamand, dans une forme adoucie, parce que le diable doit quand même se parer de ses plus beaux atours s'il veut séduire, le mouvement nationaliste flamand est au pouvoir en Flandre. et il est majoritaire dans le gouvernement flamand, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, il est institutionnalisé, il adopte parfois des formes, mais pas tous les jours. Donc la velléité de la Flandre existe toujours d'aller vers l'indépendance, mais se heurte à certaines réalités incontournables. C'est que, pour avoir notamment un régime de sécurité sociale, un régime de pension, il faut être suffisamment nombreux. Donc ça fait déjà un élément important. Et puis la position de la Belgique dans l'Europe et dans différentes structures internationales fait que pour le moment, je ne vais pas dire qu'ils sont en sourdine, mais participant au pouvoir flamand, ils ont, je pense, un os à ronger. Alors que le nationalisme n'existe pas en Wallonie, on a eu un mouvement folklorique en Wallonie qui s'appelait le rattachisme, on voulait rejoindre la France, mais ça a toujours été... Et il n'existe pas du tout à Bruxelles, où Bruxelles sont finalement les plus malheureux dans l'État belge, puisque Bruxelles est fortement francophone, mais la Flandre en a fait sa capitale et fait beaucoup de tracasseries administratives. Donc c'est assez difficile. Les pires des nationalistes flamands ne sont plus là, aux affaires, mais il y en a quand même toujours qui sont particulièrement virulents. Voilà.
Bon, eh bien, il me reste...
Ah, pardon. Je voudrais d'abord remercier Jean-Marie parce qu'il nous a bien fait rire. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Tu nous as bien fait rire, donc merci. C'est très, très appréciable. Mais est-ce que tu peux nous dire quand même une des belles réussites de la Belgique dans la bande dessinée?
Ah oui, ça je peux vous en citer. Bien entendu, nous sommes le pays de Tintin, évidemment, le pays de Spirou. Hein? Le pays de Gaston Lagaffe, ouais. Gilles Talon. Et plus sérieusement, quand même, nous sommes parmi les pays fondateurs de la Société des Nations, qui a préfiguré l'ONU. Nous avons participé à la fondation de la Communauté économique européenne du charbon et du charbon de l'acier, la CECA, l'Euratom, et nous avons eu un grand négociateur belge, parce que on cite toujours Schuman et Monnet, mais Paul-Henri Spaak, qui était un homme d'État remarquable, qui a contribué à la création de tous ces... Et le marché commun. Donc c'est un des 6 pays fondateurs du marché commun. Mais bien sûr, la BD est quelque chose d'important chez nous.
Eh bien...
Et... Gueluc, le chat, oui.
Ah oui, évidemment. Nous l'envoie souvent. Eh bien, merci beaucoup et je compte sur vous dans 15 jours pour être aussi nombreux.